France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse de 10h à 11h. Et ce matin avec l'indispensable mensuel 60 millions de consommateurs, quels sont les meilleurs et les pires produits pour les bébés de 0 à 3 ans à l'occasion de la sortie d'un hors-série en kiosque, qu'il s'agisse de babyphone, de poussettes, de couches, de petits pots, nous allons vous révéler comment s'équiper pour bébé sans être pris pour un pigeon. Comme le dit Sophie Kwan dans son éditorial, l'arrivée d'un bébé à la maison est une claque affective et économique, et il est vrai que dans ce contexte, les parents sont prêts à tout pour le bien-être de leur tout-petit et à se faire avoir par les sirènes du marketing et les trompettes de la culpabilité. Parents, grands-parents, puéricultrices, assistantes maternelles, n'hésitez pas à nous appeler au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 ainsi que sur l'appli Radio France où vous pouvez laisser tous vos messages. Comment avez-vous choisi les produits pour votre bébé? Quels sont vos critères de choix? Et quelles sont également vos mauvaises surprises? Bienvenue dans Grand-mère vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Allez, Rébéi.
Un peu de douceur dans ce monde de brut avec ses rires de bébé. Bonjour docteur Arnaud Ferdorf.
Bonjour Ali.
Vous êtes pédiatre à Strasbourg, vous êtes le fondateur de la plateforme Pédiatre Online et vous avez notamment publié chez Hachette Bébé, premier mode d'emploi. Bonjour Sophie Kwan.
Bonjour Ali,
vous
bonjour à tous.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe des hors-série de 60 millions de consommateurs. Bébé, les meilleurs produits et les pires vient de sortir en kiosque. 60 millions de consommateurs qu'il faut protéger hein, face à la menace de vente au privé de votre mensuel qui défend les consommateurs. Une pétition est en ligne sur change.org. 116 950 signatures vérifiées hier, une pétition que j'ai signée. 60 millions de consommateurs, Sophie Kwan, un magazine indépendant dépourvu de toute publicité ou sponsor qu'il faut défendre.
Qu'il faut défendre, d'autant qu'on peut, on est un des seuls médias à pouvoir donner des marques, donner les marques les meilleures et les pires. Et quand on est jeune parent, c'est vraiment utile de savoir quelle marque éviter.
Alors revenons à nos chers bébés. Quand un bébé arrive à la maison, Sophie Kwan, comme vous l'écrivez, c'est une claque affective et économique. Et dans ce contexte, les parents sont prêts à tout pour assurer le bien-être, la santé et la sécurité des bébés, quitte à devenir parfois des pigeons, comme vous l'écrivez dans votre édito.
Oui, parce que c'est effectivement une expérience totalement nouvelle pour bon nombre de jeunes parents quand ils ont leur premier. Ils vont se fier évidemment aux échos de leurs propres parents, de leurs amis qui ont eu des enfants, mais aussi beaucoup aux descriptifs sur les emballages, aux allégations, à la façon dont les marques vendent l'expérience client. Et ça, forcément, ça pousse à acheter parfois des produits beaucoup plus chers ou pas terribles.
Les parents sont prêts à consacrer un budget très important pour leur bébé avec cette idée très répandue que plus c'est cher, meilleur c'est. Et ce n'est évidemment pas forcément vrai.
Alors, c'est rarement vrai, on l'a vu dans un nombre considérable d'essais aujourd'hui dans 60. C'est vrai également, on parlera des babyphones par exemple, qui coûtent un bras de bébé, c'est le cas de le dire, et qui ne sont pas intéressants forcément quand on achète les plus chers. C'est vrai pour les poussettes. Donc, le prix, c'est pas ça qu'il faut regarder.
Les as du marketing hein, ont le don de nous convaincre de l'intérêt d'acheter un tas de produits pour bébés qui ne sont pas vraiment nécessaires. Et certains fabricants semblent se moquer parfois un peu de nous, voire plus.
Ah oui, c'est extraordinaire. Là, on n'avait pas fait les produits bébés depuis vraiment longtemps. Et quand on s'est penché sur les allégations sur les paquets, on est tombé de l'armoire. Vous avez des choses qui vont interpeller la sensibilité du parent, des aliments qui semblent éducatifs.
Mais oui, parce que j'ai repéré, Sophie Kwan, j'ai repéré des aliments censés améliorer la motricité fine des bébés.
Bon. Oui, parce qu'ils vont les manger à la main et en l'occurrence, ce ne sera pas forcément des aliments très vertueux.
Et c'est vrai que votre dossier montre bien qu'un grand nombre de produits pour bébés sont inadaptés, voire complètement inutiles. On y reviendra. Votre regard de pédiatre, docteur Arnaud Ferdorf.
Alors moi, je veux commencer par dire bravo d'avoir fait ce hors-série. Je vais le diffuser, enfin je vais en parler. Il faut qu'il y ait davantage de gens qui signent parce que ça va beaucoup nous aider, nous pédiatres, et on va diffuser auprès des parents parce que c'est une réalité et on le voit même en salle d'accouchement. Les industriels sont déjà là avec les fameux tours de lait qu'ils achètent dans les maternités. Alors officiellement, ça n'existe plus, mais c'est quand même très présent. Et évidemment, un lait qui est démarré en maternité, eh ben, les parents vont continuer. C'est un véritable business.
Et sur ces parents que vous croisez en cabinet, qui ont peur de mal faire et qui donc surinvestissent parfois dans des articles, des produits qui ne sont pas forcément nécessaires?
Alors, une grossesse, c'est 9 mois, ou parfois un peu moins, et pendant ces 9 mois, on a le temps de se projeter sur l'enfant, on ne le voit pas, il va arriver à un moment donné, et c'est vrai que des parents, surtout quand c'est le premier enfant, c'est une cible de choix, et nous le voyons, il y a plein de choses inutiles qui sont achetées, qui ne servent à rien, en particulier les familles qui veulent offrir, et surtout, il y a cette tendance, comme vous le disiez, c'est de se dire, plus c'est cher, mieux ce sera pour mon enfant, ce qui est absolument pas vrai, et il faut se méfier des marques, en particulier des PPN, les préparations pour nourrissons, les laits, premier âge, où il y a marqué relais allaitement, où il y a marqué sans ceci, sans cela.
Et qu'avez-vous envie de dire à tous ces parents anxieux qui veulent bien faire, trop bien faire peut-être, et qui investissent dans des produits coûteux et inutiles?
Plus c'est cher, je dirais, plus il faut s'en éloigner. Plus il y a de choses marquées sur le produit, plus il faut un peu s'en éloigner. Il faut se faire confiance. Souvent, on ne se fait plus confiance. On va trop sur Internet, on va trop voir ce qu'a fait la voisine. Il faut se faire confiance. Et au fond, c'est marqué d'ailleurs dans votre série, par exemple pour la cuisine, quand un produit n'est pas dans la cuisine, c'est pas nécessaire de l'avoir.
C'est-à-dire dans les listes d'ingrédients, il y a évidemment des ingrédients sur les produits alimentaires qui marquent l'ultra-transformation. On va y venir. Commençons avec l'alimentation, avec des parents qui veulent donner le meilleur à leurs tout-petits, avec cette peur d'être critiqué. Selon une enquête de Talker Research de 2025, auprès de 2000 parents américains, un parent sur trois déclare s'être senti critiqué pour ce qu'il mettait dans l'assiette de son enfant. Arnaud Pfersdorf.
Alors, l'assiette, ça veut dire qu'on est à 5 mois. Ça veut dire qu'on va commencer à diversifier l'alimentation chez un nourrisson. En général, ça commence à 5 mois. Parfois 4 mois, mais en général, c'est 5 mois. On commence par les légumes, les fruits. Eh bien, il faut faire naturel. Et nous le voyons en consultation, les parents sont demandeurs de conseils. Ça demande du temps. Il faut leur expliquer, il faut prendre le temps. Nous avons un rôle extrêmement important, nous les professionnels de santé, parce que sinon ils vont tomber dans le marketing, préparer à l'avance, ils peuvent congeler, ne pas réchauffer au micro-ondes, et puis leur dire comment faire. L'enfant, même s'il refuse telle ou telle texture, c'est pas grave, on va lui reproposer un certain nombre de fois. Il faut en fait que le parent s'écoute et fasse confiance à son enfant.
Sophie Kwan, dans l'assiette des bébés, on retrouve de plus en plus de produits ultra transformés. 60 millions de consommateurs à passer au crible, 165 aliments pour bébés. Vous avez analysé la composition de plusieurs gammes de produits. On y retrouve de nombreuses allégations, bio, sans sucre ajouté, riche en calcium. Sur les 165 aliments pour bébés de votre échantillon, environ 60% peuvent être considérés comme ultra transformés.
Oui, on s'attendait pas à ce que le pourcentage soit aussi élevé. Il y a certaines catégories qui sont extrêmement ultra transformées. C'est le cas des desserts lactés, où quasiment tous les desserts lactés sont ultra transformés. Les biscuits et une nouvelle catégorie de produits qui arrive en rayon bébé et qui marche très fortement, les snacks pour bébé. Nous, on les appelle les apéros pour bébé, pour pas utiliser un terme anglophone. Mais là, voilà, trois catégories extrêmement ultra transformées. En général, c'est pas forcément beaucoup d'ingrédients qui n'existeraient pas dans la cuisine que l'on trouve dans ces aliments. On va trouver des amidons de maïs, on va trouver des jus concentrés. Certaines marques qui sont estampillées aliments pour bébés, mais qui sont connues par les parents depuis des décennies, vendent particulièrement des aliments ultra transformés, on les cite dans ce numéro, et ça c'est triste parce que on aurait tendance à les acheter les yeux fermés.
Alors même s'il n'y a pas de consensus scientifique sur l'ultra transformation, vous avez utilisé la classification NOVA qui mesure le degré de transformation d'un aliment. Donc on retrouve de plus en plus d'aliments ultra transformés, docteur Arnaud Pfersdorf, avec des aliments formulés à partir d'ingrédients reconstitués, des technologies comme l'extrusion, des substances ajoutées, des émulsifiants, des texturants, des arômes. Quel risque de donner ce type d'aliment à un bébé, en tout cas à un bébé entre 0 et 3 ans, docteur Arnaud Pfersdorf?
Alors c'est vrai qu'il y a une liste qui devient de plus en plus longue sur les produits qu'ils achètent dans le commerce, les pectines de fruits, les réducteurs d'acidité, etc., les acides de soja ou autres, et malheureusement, trop peu d'études sont encore faites pour le moment, ça on le sait.
C'est vrai qu'il existe des études qui montrent un lien entre la consommation de ces produits ultra transformés et la santé des adultes,
voilà.
Mais il existe encore trop peu d'études sur la santé des bébés.
Alors, un vrai sujet pour nous, et nous sommes obligés d'anticiper, c'est l'obésité. Et l'obésité, on sait que plus il y a de choses dans un produit, moins on contrôle. On parlait du snacking avant, les produits soufflés où l'enfant ne mastique plus, les gourdes, je pense qu'on va en parler.
Les gourdes de compote.
Il ne mastique plus. Or, c'est indispensable qu'un enfant, un nourrisson commence à mastiquer.
Expliquez pourquoi.
Alors, la mastication se met en place vers l'âge de 7-8 mois. La mastication au bas, c'est-à-dire du haut vers le bas. Puis, dans les deux mois qui suivent, il y a la mastication rotatoire qui se met en place chez l'enfant. Il est très important de cesser les purées lisses à partir de l'âge de 7 mois, 8 mois, pour donner des purées grumeleuses. Pour faire de la DME, pourquoi pas ? Moi, je suis assez adepte de la diversification menée par l'enfant. C'est pas mal. Il faut donner des conseils. Le pédiatre est là pour expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. L'objectif, c'est que l'enfant mastique, qu'il coordonne bien la mastication et la déglutition, ça va aider pour le développement de sa face, de son maxillaire, de la mâchoire, pour le langage, pour le sommeil, pour beaucoup de choses.
Et puis, il y a un impact de l'alimentation ultra-transformée sur le microbiote des bébés.
Alors, le microbiote, c'est quelque chose qui se développe, qui met du temps.
Microbiote
c'est un peu la mode aussi d'aller chercher des compléments alimentaires de ci, de là, évidemment. Souvent, on voit des parents arriver, voilà, on a démarré tel et tel probiotique. Ils savent même pas ce que c'est qu'un probiotique. Mais évidemment, il y a eu du marketing derrière dans des... Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire.
Vous ne recommandez pas des compléments alimentaires, des probiotiques pour les bébés. Ça, vous êtes formel.
Non, un enfant a besoin de calcium, il a besoin de lait, il a besoin de fer. Il a besoin de vitamine D, il a besoin de glucose, de protéines et de lipides pour son cerveau. Point barre. Et on voit avec son médecin, avec le praticien, avec le pédiatre, faire des rajouts. Alors attention, un enfant qui est un ancien grand prématuré, il y a peut-être des choses qu'il faudra rajouter, mais dans l'ensemble, il n'y a pas besoin de ces compléments alimentaires. C'est du superflu.
Sophie Kouane.
Oui, alors sur les compléments alimentaires, on a découvert des marques qui poussent les parents, par exemple, à développer l'immunité de leur enfant. Grande question, quand on va mettre son enfant à la crèche, on se dit, ça y est, il va choper tous les microbes. Donc on a envie de donner un complément alimentaire qui va booster son immunité. Dans l'une des marques, on a découvert des plantes qui sont déconseillées par l'ANSES au moins de 12 ans et d'autres déconseillées au moins de 18 ans dans un complément alimentaire à donner dès la diversification alimentaire. Donc vous voyez le hiatus entre la promesse et ce que l'on trouve exactement dans les produits. Ici, des compléments alimentaires. On a montré également la répression des fraudes a montré également qu'un tiers des compléments alimentaires d'un panel qu'ils avaient étudié contenaient trop de vitamines. C'est-à-dire qu'en utilisant des compléments alimentaires, on risque en plus de faire des surdosages qui sont toxiques pour les nourrissons.
Docteur Pfesdorf.
En particulier la vitamine D. La vitamine D, souvent on se dit, allez, on va donner 4 gouttes au lieu de 2. Non, parce que le rein va souffrir. Il y a un risque de néphrocalcinose. Donc, il faut faire attention. Et dans des compléments alimentaires, il y a parfois de la vitamine D qui ne tient pas compte de celle qui est déjà apportée chaque jour à l'enfant.
Sur ces compléments alimentaires censés booster l'immunité des bébés, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents qui veulent bien faire hein? C'est quoi le message à transmettre ce matin?
Moi, je crois que nous autres professionnels de la santé, on est là pour voir un enfant. C'est une période extrêmement importante, la première année d'un nourrisson. Parce que c'est pas uniquement pour le mesurer, le peser, bien sûr, mais on va faire de l'anticipation, du préventif, on va expliquer aux parents. Voilà, maintenant il a 5 mois, voilà ce qu'on va faire. Voilà, il a 7 mois, voilà ce qu'on va faire. Mais aussi, on va expliquer, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et faites-vous confiance, et si vous avez besoin de donner, vous voyez, alors souvent il y a une fixation sur le poids. Le poids, on voit des parents, oh, il a perdu 100 grammes, il n'a pas pris de poids, il n'a pas mangé. Du coup, ça ouvre la porte au snacking, au grignotage. Donc on donne, on emporte une gourde. Dans la voiture, on a toujours un truc en se disant, bah, tiens, il n'a pas bien mangé.
Hein.
Hop, on va donner un complément. Non, c'est une catastrophe. Un enfant, il mange parce qu'il a faim. Il faut respecter cette notion-là, sinon parfois on va évoluer vers des troubles du comportement alimentaire.
Allez, dans quelques instants, on s'intéressera aux produits de soins pour la peau de bébé. Comment bien choisir sans se faire intoxiquer par le marketing? Ce sera juste après avoir écouté Roberta Flack et Donny Hathaway, Where is Love, une chanson sortie en 1972, 10h20 sur France Inter. Love. Roberta Flack et Donny Hathaway interprétaient Where is the Love.
France Inter.
Vous voulez premier âge ou deuxième âge?
Ah bon, il y a deux âges.
Parce que dans certaines marques, le premier âge va jusqu'à 3 mois inclus. Mais dans d'autres marques,
grand bien vous fasse.
Je vais prendre les deux boîtes, premier et deuxième âge, et puis...
Je vous donne des biberons?
Ah oui, des biberons.
Les tétines normales ou à 3 vitesses?
Ah bon, il y a 3 vitesses.
Allez, Rébéi.
Et ce matin, dans Grand Bien Vous Fasse, on s'intéresse aux meilleurs et aux pires produits pour bébés, avec la complicité du hors-série de 60 millions de consommateurs, avec la rédactrice en chef de ce hors-série, Sophie Kouane, et avec le pédiatre Arnaud Pfersdorf. Et nous accueillons Agathe. Bonjour Agathe.
Oui, bonjour.
Vous appelez de la bonne ville de Toulouse, qui m'est chère.
Voilà.
Quelle est votre question, votre témoignage?
J'avais deux petites thématiques, dont notamment le babyphone, en fait, que j'ai jamais eu à la maison. Mm-hmm. Et je me suis un peu toujours interrogée sur le fait de mettre sous surveillance un peu le bébé voilà, qui vient de naître, en sachant que nous, on a... Enfin, le bébé a dormi près de nous pendant un moment, et puis après, il a dormi dans sa chambre, tout ça. Mais même une fois qu'il est installé dans sa chambre, en fait, pour moi, voilà, les portes, elles sont pas anti-son, et on entend quand un bébé a besoin. Mmh. Et que si on est en bas dans une soirée ou ailleurs, voilà, si on s'éloigne, pour moi, c'est assez... disons que le babyphone, on s'en est passé pendant très longtemps, et avant que cette technologie se développe. Et là, j'ai l'impression que ça se développe avec les caméras, avec le moindre sursaut du bébé, on est là à le surveiller, à s'inquiéter. Je trouve que c'est de la fatigue aussi pour les parents d'être un peu en alerte comme ça. Et puis le bébé même, si jamais il fait des signes un peu de réveil, peut-être qu'il va se rendormir. Bref, pour moi, c'est une technologie qu'on peut vraiment mettre de côté pour le coup.
C'est une réflexion très intéressante, Agathe, et un peu hétérodoxe, parce que c'est vrai que surveiller son bébé, c'est une saine obsession des parents pour assurer sa sécurité. C'est un outil utile. Le premier écoute bébé a été commercialisé, je crois, en 1937. Ça s'appelait le Radio Nurse. Et c'est vrai que tout dans les premiers mois, vous m'interrompez si je me trompe, docteur Pfersdorf, le nourrisson ne se rend pas compte qu'il est observé par la caméra. Et à partir de 2-3 ans, la caméra peut-elle avoir un impact sur le développement du bébé?
Ah bah oui, il y a un côté intrusif.
Ouais, c'est ce que dit Agathe.
L'enfant est habitué. Alors tout dépend à quel âge on le met. Moi j'avoue que je suis contre ces...
Ah, pourquoi?
Pardon?
Pourquoi?
De quoi?
Vous êtes contre le babyphone?
Mais
c'est intéressant.
Mais oui, mais pourquoi? Parce que on met de la technique partout. Il faut rappeler une chose, c'est qu'un bébé a un cri strident. Soit il pleure pas, il est calme, soit il hurle, c'est 10 sur 10. Pourquoi ? Parce que le cri d'un nouveau-né doit pouvoir traverser un mur très épais pour que les parents l'entendent, parce que il est dépendant à 100%. On entend toujours un bébé qui pleure. Il est jamais très loin, donc on va y aller, soit il dort dans la chambre, soit il dort dans la chambre à côté. Ce que craignent les parents, c'est la mort subite. La mort subite. La mort subite, c'est surtout les 3 premiers mois, maximum 6 mois, mais les 3 premiers mois. En particulier quand il s'agit d'un prématuré, d'un grand prématuré. Là, on accompagne les parents, et très vite après, on va se séparer de ce genre de trucs. Sinon, ça devient un fil à la patte, une espèce de bracelet électronique, et on voit des parents, l'enfant a 3 ans, ils mettent encore une surveillance. Non, non, c'est intrusif, c'est angoissant, et en plus, on ne sait pas les effets des ondes, tout ce qui est Bluetooth et autres, les ondes électromagnétiques sur le cerveau de l'enfant.
Et bon, vous buvez du petit lait, Agathe.
Oui, écoutez. Non, mais en fait, moi, ce que j'ai en tête aussi, c'est que la mort subite, des fois, on ne l'entend pas. Enfin, le bébé n'hurle pas. Donc ça n'enlève pas, si vous voulez. Voilà, j'avais une amie aussi qui était très inquiète par rapport justement à la mort subite, qui avait acheté un coussin pour que le bébé bouge pas. Alors, je me dis, au niveau motricité, installation dans le lit, c'est quand même. C'est un peu dur, je trouve, pour l'enfant, pour s'installer et pour trouver sa position aussi un petit peu naturelle. Quoi.
Docteur Ferzor.
Agathe, vous l'avez dit, la position, c'est essentiel. Moi, quand j'ai commencé ma médecine, on avait énormément de morts subites. Depuis, on a changé les attitudes de sommeil du bébé. Il dort sur le dos et non plus sur le ventre. On ne met rien dans le lit.
Rien,
on
lui dit,
rien dans le lit, rien. Il peut s'étouffer avec un truc. Attention aussi, surtout au dodo. On peut s'endormir sur son bébé. Et moi, j'ai eu des cas comme ça, c'est dramatique. Donc, il faut avoir les bons conseils. Et puis aussi, il faut savoir que le bébé, la mort subite, ça peut arriver alors que bébé est dans notre propre chambre des parents. On n'entend pas. Donc, il ne faut pas s'angoisser à cause de ça. Il faut être bien accompagné, mais pas se surcharger en matériel.
Tout de même, comment bien choisir son babyphone si on tient en posséder un ? Faut-il beaucoup dépenser pour s'équiper, Sophie Kwan ?
Alors là encore, pas nécessairement. Les premiers babyphones, il y en a des 30 euros. Alors, premier conseil, ne pas aller les acheter sur les plateformes chinoises bien connues qui vont vous vendre des babyphones encore moins chers mais qui ne seront pas aux normes européennes. Et on ne sait pas ce qu'il en est des ondes qu'ils émettent. Donc, on peut trouver des babyphones... Dans notre étude,
Il y en a un à 30 euros de la marque Babymove Simplicare et un autre de la marque VTech, le BR1211, à 62 euros. Alors là, j'ai failli avoir une crise cardiaque en voyant le babyphone de chez Philips qui s'appelle Premium Connected Baby Monitor à 400 euros et qui promet une, et je cite l'argument publicitaire, une tranquillité d'esprit totale. Et ce babyphone est censé permettre aux parents de garder un œil sur le sommeil et la respiration de l'enfant grâce à sa caméra intelligente qui analyse les moindres mouvements. Et là, je reprends évidemment les éléments de marketing de la marque.
Oui, alors c'est vraiment le type de produit qu'on déconseille justement par le stress qu'il va générer chez le parent. Il faut savoir que les babyphones sont dans les listes de naissance, c'est-à-dire qu'ils sont présents à un moment où le parent ne sait pas ce que c'est que d'avoir un bébé à la maison. Et comme le dit le docteur, une fois qu'il en aura un, si on attend un petit peu avant de lui offrir ce babyphone aux parents, le parent il va s'habituer aux cris de son bébé et se rendre compte assez rapidement qu'il n'aura pas besoin de quelque chose de très sophistiqué. Nous, on conseille plutôt des babyphones qui ne sont pas avec la vidéo, ne serait-ce que parce que les babyphones avec vidéo passent par le cloud et les données peuvent être récupérées. On sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui piratent les babyphones. Et d'une manière générale, ce Philips Advent à 400 euros surfe sur la vague de l'angoisse des parents. On a dans notre numéro des matelas connectés, des tours de lit connectés qui mesurent la respiration du bébé ou des bracelets connectés qu'on met aux nourrissons. Il faut arrêter l'escalade.
Oui, il faut savoir raison garder. La mort subite, elle est là. Les parents ont peur d'en parler. Nous en parlons. Et il faut accompagner les parents, en particulier quand il y a un terrain particulier, prématuré, des reflux importants, des vrais reflux, pas le raflux, reflux, hein, le RGO interne diagnostiqué sur Internet, parce que ça aussi c'est un sujet. Bref, on accompagne. Il y a des cas où on va conseiller même de faire un détecteur d'apnée. Ça oui, mais c'est accompagné par les médecins. Après, oui, un babyphone simple, pas de vidéo, ça c'est bien. Et puis surtout, on apprend à s'ensevrer le plus rapidement possible.
Merci beaucoup Agathe de nous avoir appelé. Nous accueillons Colline. Bonjour Colline, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour, d'où appelez-vous Colline?
Moi, du Loir-et-Cher.
Très bien, quel est votre témoignage ou votre question?
Alors, mon témoignage, c'était d'un point de vue équipement. Donc, après l'allaitement et depuis sa naissance, on a fait confiance à la marque Les Petits Culottés pour les couches et puis le lait. Et puis, d'un point de vue équipement, en fait, avec mon conjoint, on a fait beaucoup de seconde main. J'ai eu de la chance, ma grande sœur avait eu un bébé, donc elle m'a donné le lit, la table en longée, beaucoup de vêtements. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de seconde main. Et ça nous a libéré un poids immense d'un point de vue financier.
Sophie Kwan, sur la seconde main.
Alors la seconde main, d'abord, c'est une tradition de passer dans les familles, de passer de l'équipement, et c'est quelque chose qui est sain, qui accompagne les parents et qui peut désangoisser également.
Nous sommes une fratrie de 5 et le petit dernier a bénéficié d'articles de bébé que j'ai porté dans les années 70, le pauvre.
Ah oui, alors les vêtements en seconde main, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant, parce que comme ils ont été portés, lavés un nombre incalculable de fois, on est sûr qu'ils ne contiennent pas de produits chimiques comme les vêtements neufs. En revanche, il y a certains produits que les pédiatres déconseillent formellement, j'en citerai deux, le matelas.
Oui.
Voilà, parce qu'il contient des fluides, parce qu'il peut... voilà. Et puis, le siège auto. Le siège auto qui, hélas, est un vrai investissement. Ça coûte cher, mais il vaut mieux l'avoir neuf, parce qu'on ne sait pas si ce siège auto a eu des chocs. Les micro-fissures ne se voient pas, et des micro-fissures dans un siège auto, si on a un accident, ça peut être fatal au bébé.
Docteur Persdorf.
Oui, la sécurité, c'est important. C'est vrai qu'autrefois, on passait les lits de génération en génération presque. Donc les lits aussi, il faut s'en méfier. Les vieux lits, non, parce qu'il y a des histoires de peinture, de produits toxiques avec lesquels ils ont été construits. La sécurité, et c'est vrai que ça, il faut être prudent là-dessus quand c'est de la seconde main.
Colline, on va s'intéresser là aux produits de soins hein, pour la peau de bébé. Qu'est-ce que vous utilisez pour votre bébé?
Des produits pharmaceutiques comme Aderma au début. Plus jeune, on a acheté des produits bio en magasin bio, surtout le liminant et puis le lait de douche, parce que en plus mon conjoint et moi avons des problèmes d'eczéma.
Voilà. Merci beaucoup Colline de nous avoir appelé. Le défi pour les parents, c'est donc de choisir les formules les plus saines pour la peau de bébé. La peau du bébé est-elle spéciale? Quelles sont ses particularités? Je crois savoir que pendant les 6 premiers mois, c'est une peau beaucoup plus fine au niveau de l'épiderme et de la couche cornée, et que les premières semaines, le nourrisson a souvent la peau grasse.
Alors, la peau est très fine chez un bébé. Il faut des mois et des mois pour qu'elle s'épaississe. Les 3 couches du derme. Et en particulier, fabriquer et s'enrichir en lipides pour se défendre contre les agressions. Et une peau d'un bébé peut avoir certaines sécheresses. Il ne faut pas tout de suite se précipiter en mettant une crème hydratante. Par contre, il faut faire attention à ce qui peut favoriser les sécheresses de peau. Par exemple, ne pas donner un bain tous les jours. Ça, on évite. Ne pas utiliser des vêtements qui sont agressifs, de la laine ou des choses comme ça. Ne pas utiliser des savons à pH acide. Il faut prendre du pH neutre. Et puis surtout, laisser la peau respirer. Une peau sale, c'est plutôt bien pour le microbiote. Et d'ailleurs, une petite anecdote, nous autrefois, en maternité, tout de suite, à peine le bébé était né, c'était le premier bain du bébé, c'est tout juste, c'était pas déjà dans la salle d'accouchement. Maintenant, on sait qu'il faut laisser le vernix, il faut laisser les choses se développer pour que le microbiote se développe.
L'idée, c'est d'être le plus minimaliste possible, Sophie Kwan, sur le soin de la peau.
Alors, sur le soin de la peau, et notamment le change, l'eau, c'est le meilleur nettoyant possible, et puis un comportement, c'est-à-dire changer la couche le plus souvent possible, dès qu'elle est mouillée, dès qu'elle est souillée, la changer tout de suite, parce que c'est ça qui va contribuer aux rougeurs.
Donc, pour laver la peau de bébé, évidemment, on pourrait être tenté par des produits entre guillemets naturels, le savon de Marseille, le pain d'Alep, ou encore des savons sur gras ou des pains dermatologiques. Mieux vaut éviter ?
Oui, parce qu'ils ont un pH très élevé. Donc, moi, je suis une grande fan du savon de Marseille, mais surtout pas sur la peau de bébé. Il faut savoir qu'on a eu du mal à trouver des produits vraiment dépourvus d'ingrédients problématiques, qui ne soient pas irritants, par exemple, y compris dans des eaux lavantes, comme une eau pure. Alors là, on revient au marketing, une eau pure qui contient un irritant, notamment pour la peau de bébé.
Lequel avez-vous choisi dans ce sentiment de consommateur? Je crois que c'est le gel corps et cheveux bio de la marque Love & Green.
Bah oui, Love & Green, qui est un des plus sains et puis qui contient pas de parfum. Là encore, la question du parfum se pose, qui peut sensibiliser le bébé. Deux choses. D'une part, il sensibilise le bébé. Plus on le met dans un environnement où il y a du parfum, dans la lessive, dans les produits de soins, plus il risque d'être sensible à ces parfums-là. Et puis, le bébé, mais ça, le docteur en parlera beaucoup mieux que moi, a besoin de sentir sa propre odeur, l'odeur de son environnement, de ses parents. Et le parfum est une barrière, évidemment, à ce développement-là.
Vous confirmez qu'il vaut mieux choisir des produits de soins pour la peau plutôt sans parfum et d'exclure les produits à base d'huiles essentielles qui n'ont rien à faire sur la peau d'un bébé.
Ah oui, ça il faut éviter. Les huiles essentielles, ça peut même être toxique pour un bébé, en particulier sur le plan respiratoire, donc prudence. Et puis, comme vous le disiez, une chose toute simple, laisser la peau s'aérer. Et il y a les endroits les plus sensibles chez un bébé, c'est le cou, parce que le cou est un peu épais, donc ça ne respire pas, les aisselles et l'aine. Eh bien, il faut prendre le temps. Tout de suite, quand on change un bébé, ben, on le nettoie, on laisse sécher, on lui en met pas la couche tout de suite, on le laisse un peu à l'air libre. Souvent, ça évite les érythèmes.
Et une chose importante, avec la plupart des produits, il faut les rincer à l'eau. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'une fois qu'on a nettoyé les fesses de bébé, et notamment avec les lingettes, ça suffit, on peut lui remettre sa couche. Non, il faut rincer le produit, parce que tous ces produits contiennent des substances qui peuvent pénétrer la peau. Donc le rincer à l'eau, on en revient toujours à l'eau finalement.
Bonjour Floriane, bienvenue.
Bonjour, merci.
Bonjour, vous êtes puéricultrice en PMI, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Alors, quel est votre témoignage?
Alors, je voulais réagir, c'était notamment au niveau de l'alimentation tout à l'heure. Voilà, déjà, je suis absolument d'accord avec tout ce que dit le docteur. La seule chose qui m'a fait un peu tiquer, c'est que par rapport aux aliments, notamment au fait de cuisiner pour son bébé, c'est vrai que moi, j'accompagne des familles dans divers contextes.
Oui, vous êtes en protection maternelle et infantile, à PMI.
Oui. Oui, mais on fait également, enfin notre mission première étant la prévention, on accompagne des familles qui viennent d'accueillir un nourrisson pour les mois qui suivent l'arrivée du bébé. Et c'est vrai qu'on ne conseille pas toujours de faire forcément, de cuisiner soi-même forcément, puisque ça peut être culpabilisant pour certaines familles pour diverses raisons qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'énergie, qui sont parfois un peu vulnérables. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt de faire au mieux pour eux, pour être plus disponible pour leur bébé, faire ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont envie. On aura tendance à conseiller après des aliments préparer, cuisiner bio. Le problème, c'est que le bio a un coût et que les familles qu'on accompagne n'ont pas forcément les moyens de mettre dans du bio. Mais c'est vrai que nous, on essaye de faire culpabiliser le moins possible et d'être dans un accompagnement le plus proche des recommandations de l'HAS, évidemment.
La Haute Autorité de Santé.
Et oui, tout à fait. Mais de pas nécessairement de faire au mieux, voilà, pour eux et pour leur bébé.
Docteur Fersdorf.
Oui, ben ça je comprends, je partage cette notion de tous les parents n'ont pas le temps de préparer. Cela dit, on peut préparer à l'avance, récupérer des petits pots, on met dedans, on congèle. Et puis si le bébé ne termine pas le petit pot alors qu'on l'a décongelé, on peut l'utiliser encore maximum 24 heures. Et j'en profite pour dire, on réchauffe pas au micro-ondes. Mais il y a cette notion de préparation, mais chacun fait comme il peut. Bien entendu, ça va de soi.
Sophie, quoi?
Alors, il est hors de question de culpabiliser les parents. La première action à faire, c'est de mettre la pression sur certains industriels qui continuent à faire de l'ultra-transformation, alors que certaines marques sont totalement dépourvues d'ingrédients. Qui contribuent à l'ultra-transformation. Il y a des marques, il faut regarder les étiquettes. Là, vous allez me dire, ça demande encore un petit peu de temps, peut-être un peu de culture aussi. Regarder les étiquettes pour essayer de trouver les les produits les moins ultra transformés, et puis surtout demander aux industriels d'en mettre moins, de charger moins. Mmh. Au niveau de la préparation, il faut quand même savoir que en rayon surgelé, on peut trouver des purées de légumes et des légumes tout simples à mixer qui peuvent être très utiles quand on n'a pas beaucoup de temps et qui contiennent aucun gras, ni sel, ni rien. Donc ça peut être intéressant. Et puis c'est vrai qu'on s'est habitué en tant qu'adulte au prêt-à-manger, c'est-à-dire à tout ce qui est tout prêt. Et en fait, là encore, je pense que ça répond pas mal à une angoisse. Quand on n'a jamais trop cuisiné soi-même, on se dit que ça va prendre beaucoup de temps, etc. Nous, on montre que pas forcément, et puis surtout, ça peut être nettement moins cher.
Merci beaucoup, Floriane, d'avoir appelé. D'autres puéricultrices ou assistantes maternelles peuvent également nous appeler au 01 45 24 7000. Alors, on peut aussi préparer des repas sains pour son bébé. On peut s'aider de robots culinaires qui peuvent aider les parents et les grands-parents. Alors, à 60 millions de consommateurs, vous avez testé le Baby Cook original de chez Beaba et le Baby Move de la marque Nutri Baby One.
Oui, alors on a pris deux robots qui fonctionnent très bien même, qui sont extrêmement pratiques. L'un plus pratique que l'autre, hein, c'est le robot pour bébé le plus qui a été parmi les premiers à sortir.
C'est le Baby Cook original de Beaba. Alors ses fonctions, c'est de cuire à la vapeur, de mixer, de décongeler, de réchauffer. Et le prix, c'est environ 120 euros. Et celui que vous avez également testé, c'est le Baby Move de chez Nutri Baby One qui a les mêmes fonctions et qui coûte 79 euros.
Voilà, alors on peut les acheter en seconde main. Si vous remplacez le panier par un œuf, ça vous fera un prix nettement moins élevé. C'est pratique parce que vous pouvez faire des petits pots en 15 minutes. Par exemple, commencer par faire des compotes maison. Voilà.
Docteur Fersdorf.
Oui, c'est des outils qui sont très utiles, qui permettent de gagner du temps, et c'est vrai qu'ils ont énormément évolué. Donc, c'est une bonne idée de cadeau.
Oui. Oui.
Merci beaucoup, Floriane, et nous accueillons Mélusine. Bienvenue, Mélusine.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui.
Bon, très bien. Vous appelez d'où? Vous appelez d'où, Mélusine?
De La Roche-sur-Yon.
Très bien. Quel est votre témoignage?
Moi, j'ai été maman assez jeune. J'ai été maman en 2014. Et mes amis ont été maman peut-être 6 ans, 8 ans après moi. Et on a une différence au niveau de l'équipement, de la façon de faire à manger, tout ça, qui est assez impressionnante.
Expliquez-nous, racontez-nous.
Moi, quand j'étais toute seule à La Roche-sur-Yon avec mon compagnon. Et donc, on n'avait pas de matériel. Et puis, quand on discute maintenant, elles ont toutes le baby cook, le babyphone, enfin ce genre de choses, des trucs qui stérilisent. Et moi, je suis un petit peu perdue avec tout ça. Et puis, elles ont des règles que nous, on n'avait pas pour l'alimentation. C'est des choses qui ont changé. Moi, à 4 mois, ma fille, elle mangeait des petits pots salés, parce qu'il y avait des petits pots salés qui existaient dès 4 mois. Et maintenant, ça n'existe plus.
Est-ce que vous avez l'impression, Mélusine, que les pères et les mères qui viennent d'être parents sont, ensorcelés par des tas d'accessoires pour bébés qui, de votre point de vue, semblent inutiles ou,
Oui, un peu.
Oui.
Un petit peu,
oui. Ouais.
Ouais, oui. C'est un petit peu l'effet de mode, moi, j'appelle ça.
Docteur Fersdorf.
Oui, c'est ça. Mais Mélusine a raison. L'effet de mode, la peur de ne pas avoir ce que l'autre a. Le voisin a, ce que ceci, cela. Sinon, on va être la mauvaise mère ou le mauvais père. Ah, t'as pas ça? Ah, bah tiens, tu devrais. Bon.
Avec une légère culpabilisation, l'air de rien.
Ah, bah ça marche à fond. Et alors, avec les réseaux, je vous dis pas.
Et j'imagine, Mélusine, mais ça sera un autre sujet d'émission, la subtile compétition entre parents. J'imagine que, voilà, puisque vous avez un peu plus de recul avec vos amis qui ont été parents un peu plus tard, ça doit vous amuser parfois, peut-être.
Ah ouais, complètement.
merci beaucoup de nous avoir appelé, Mélusine, au 01 45 24 7000. Dans quelques instants, on va s'intéresser aux couches et on va écouter Stéphane Escher, Poussière d'or. Il est 10h45 pile sur France Inter.
Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir dans le matin bleu. facile et chancel. Comment sommes-nous venus là? Qui nous a égarés là? Nous n'avons fait qu'obéir. Nous n'avons pas su choisir. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Combien faudra-t-il de peine avant que la joie revienne? Tout ira de mieux en mieux, tout sera si merveilleux. Quel doux chant, quel joli rêve, quel doux miel à nos lèvres. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Au cadran, les heures s'abîment, à l'horizon, rien ne brille. Aube froide et moment pourrait nous assassiner. Demeurons côte à côte, avançons l'un contre l'autre. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir si au matin bleu, comme l'eau au lacrymogène. Le chemin semble sans fin, de quoi sera fait demain? Sinon des miroirs des âmes. Quel choix de garder la foi. Quelle chance d'être quelquefois aveuglé par son ardeur, inondé par sa blancheur.
Stéphane Escher interprétait Poussière d'or.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, dans Grand Bien Vous Fasse, on s'intéresse aux meilleurs et aux pires produits pour bébés avec la complicité de 60 millions de consommateurs qui publient hors série, avec sa rédactrice en chef Sophie Kwan et le pédiatre Arnaud Pfersdorf. Et nous accueillons Emeline. Bienvenue Emeline. Bonjour Emeline, êtes-vous avec nous ? Emeline ? M'entendez-vous, Emeline ? Non, mais je vais lire votre question, je vais la prendre dans ma voix. Emeline qui nous demande de quid du liniment. Est-ce que vous pouvez... vous êtes là, Emeline ?
Oui, je suis
voilà,
là, oui.
Voilà,
oui.
Donc je vous laisse continuer donc, sur la question du liniment.
Oui, j'avais une question par rapport au liniment. Moi, j'ai nettoyé le siège de mes deux enfants au liniment. C'est un liniment que je faisais. Mm-hmm. Donc je le faisais avec de l'eau de chaux que j'achetais soit en magasin bio, soit en pharmacie, et avec de l'huile d'olive bio. Et donc c'est très facile à faire puisqu'il faut faire moitié-moitié. Et puis après, secouer très énergiquement pendant un petit moment.
On peut rappeler ce qu'est le liniment peut-être, Emeline ? C'est quoi le liniment ? Ça sert à quoi ?
Alors c'était pour nettoyer les fesses de mes enfants au changement de couche en fait.
D'accord.
Et comme moi ils avaient des gros problèmes d'eczéma, ils avaient besoin d'être très hydratés, etc. J'avais réussi à trouver un truc qui allait pas trop mal pour eux. Mmh. Et c'était ça.
Rappelez-nous la recette.
Donc de l'eau de chaux. Mmh. Et de l'huile d'olive bio. Enfin, moi, je mettais de l'huile d'olive bio, ça, c'était un choix, mais de l'huile d'olive, en tout cas, c'est ce qui permet après que le mélange se fasse et se tienne.
Votre regard, docteur Pfersdorf.
Oui, c'est moitié-moitié. C'est bien, il faut, si vous utilisez ça, comme vous le faites, c'est très bien. Il faut le faire soi-même.
Pourquoi ?
Oui.
Bah, parce que d'abord, on contrôle le produit. Il ne faut pas faire des trop gros flacons, parce qu'il y a aussi une histoire de
conservation.
On sait ce qu'on a mis dedans. Et puis, mais attention, il ne faut pas l'utiliser à mauvais escient. Par exemple, une peau sèche, le liniment n'a pas, c'est pas un traitement, c'est plus pour nettoyer et après on laisse les fesses à l'air, bien entendu, avant de fermer les couches.
Merci beaucoup, Emeline. Oui, vous avez peut-être une dernière question.
Non, non, c'était juste pour dire que je préparais effectivement que pour une durée d'un mois maximum et je donnais la bouteille à la crèche qui acceptait de le nettoyer avec ça. Donc c'est vrai que ça m'avait vraiment dépanné.
Merci beaucoup, Emeline, de nous avoir appelé. J'aimerais qu'on passe aux couches, Sophie Kwan. Alors, ce qu'on demande à des couches, hein, c'est un coût correct, une bonne absorption et une absence de toxicité. Le contrat est-il rempli avec la plupart des couches que vous avez testées dans 60 millions de consommateurs ?
Alors oui, le tableau comparatif est presque entièrement vert, ce qui est quand même pas fréquent dans des produits. On se félicite à 60 millions de consommateurs d'avoir alerté dès 2017 sur la présence de substances toxiques dans les couches, notamment de pesticides comme le glyphosate ou le dioxine ou les dioxines. Cette fois, on n'en a pas trouvé. Les résultats sont vraiment très bons dans les couches, la dizaine de couches qu'on a étudié, donc ça c'est vraiment très positif.
C'est-à-dire
et on se félicite de ça.
Les quatre premières couches de votre classement sont notées entre 16,5 et 15,7 sur 20, ce qui est énorme. Le dernier paquet de couches
est à
13,9 sur 20.
Donc ça c'est positif.
On peut donc dire que dans le commerce, en règle générale, on trouve plutôt des couches sans toxicité.
Après, en termes d'absorption, on a des couches plus ou moins absorbantes. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a étudié en utilisant des mannequins garçons et des mannequins filles. Et oui, ça existe. Qui ne font pas pipi de la même manière pour voir comment l'urine pouvait potentiellement être répartie dans la couche. Il y a des différences entre les garçons et les filles. Ce qu'il y a là encore de sûr, c'est que dans ce comparatif, les meilleurs rapports qualité-prix, ce ne sont pas les couches de la marque leader que tout le monde connaît, qui commence par un P,
qui finit par un S.
Celles-là, elles sont plutôt dans le dernier tiers du classement. Les meilleurs rapports qualité-prix, ce sont des couches de marque de distributeur.
Pour terminer, vous avez passé au crible 20 accessoires pour bébés qui se retrouvent très souvent sur les listes de naissance. Alors, selon les experts que vous avez interrogés pour ce hors-série, plus de la moitié des accessoires sont totalement inutiles, contre-productifs, voire dangereux. Alors, on peut citer la brousse anti-croûte de lait.
La brosse, oui.
La brosse anti-croûte de lait, la lime à ongles électrique ou le coussin anti-tête plate. Ou encore les lingettes dentaires. Ça fait sourire le docteur Arnaud Pfersdorf.
Ah oui,
on est d'accord, c'est
ah oui,
hein
oui, non,
alors,
non.
Allez-y, lâchez-vous.
Ah oui,
non, lâchez-vous.
Mais... Alors le truc anti-tête plate, ça c'est un business. Il faut savoir raison garder.
Je vois votre consternation.
Ah oui, non, on est consterné. Alors, attention, il y a certaines plagiocéphalies ou certaines brachycéphalies qui sont liées à la position dans le ventre ou à la naissance. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Là, il va y avoir un accompagnement médical.
C'est quoi la brachycéphalie ?
La brachycéphalie, c'est quand le crâne est plat, mais très plat, mais de manière symétrique. La plagiocéphalie, il est plat, mais d'un côté, occipital droit, occipital gauche. Ou autre. Là, il faut vraiment être accompagné par le médecin et pas faire n'importe quoi. Alors, les coussins, non, on arrête, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Par contre, la position du bébé, la position dans le lit, le mettre régulièrement sur le ventre. Nous, ce qu'on préconise, c'est de mettre 5 fois 15 minutes son nouveau-né, déjà à la naissance, sur le ventre, sur un plan dur, sous surveillance, bien entendu, et en étant sur le ventre, il va chercher à redresser la tête, développer les muscles, et ça va lutter contre la plagio.
Et sur la vingtaine d'accessoires que vous avez testés, 3 sont utiles, selon les experts que vous avez interrogés, l'aide au sevrage de la tétine, la bouillotte chaud et froid, et l'assiette compartimenté. Sur l'aide au sevrage de la tétine, docteur Pfersdorf ?
Oui.
Vous n'êtes pas convaincu, vous.
Enfin, il faut faire simple. Je crois que... Alors, il y a une chose qui est très importante chez un enfant pour s'alimenter, c'est la couleur, la texture et avoir faim. le moment de convivialité aussi.
La couleur et la texture ?
La couleur pour un nourrisson, ah oui. La couleur d'un aliment.
Ah oui.
C'est pas pour rien qu'il y a des couleurs que tel nourrisson préférera. Les fruits, la couleur joue beaucoup. D'ailleurs, les industriels le savent. La couleur joue un rôle important. La texture, on le voit, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais sur les fameux soufflés, tout ce qui est produit soufflé, à l'eau, quoi, comme on dit. Il faut faire attention à ça, parce que l'enfant ne mastique plus. Donc il faut proposer, il a le droit de dire non, il va prendre le temps, on a le temps pour ça, mais il ne faut pas non plus proposer n'importe quoi, comme on le disait tout à l'heure, sous prétexte qu'il n'a pas assez mangé au repas précédent.
Sophie Kouane.
Oui, alors en parlant de la texture, effectivement, ce qu'on appelle les apéros pour bébés, c'est dramatique parce que c'est une texture
soufflée. Ça s'appelle pas comme ça quand même.
Alors ça s'appelle des snacks, du snacking. C'est mes premiers soufflés, par exemple.
Ah, les soufflés.
Mes premiers soufflés.
Alors, c'est pas le soufflé au fromage, c'est
alors,
des produits soufflés.
Alors c'est un petit soufflé qui ressemble furieusement à un apéro. Ah oui, c'est des biscuits soufflés, voilà. Comme les apéros qu'on trouve plus tard, que les enfants, dont les enfants vont raffoler plus tard. C'est packagé dans des petits paquets comme des mini paquets de chips, donc très facile à emporter par un parent dans son sac. Et ça habitue l'enfant. Alors certes, l'aspect nutritionnel est bon, c'est pas salé, mais ça va habituer l'enfant à piquer dans un petit sac pour aller manger l'équivalent d'une chips ou d'un biscuit apéritif. Donc certes, la texture est totalement nouvelle, c'est un marqueur d'ultra-transformation, cette texture-là. Donc vraiment quelque chose à éviter et qui, hélas, trouve beaucoup de succès auprès des parents.
Un mot rapide sur la poussette, on retrouve des centaines de marques, des milliers de références avec des designs et des ergonomies très diversifiées. Le bon modèle, hein, c'est celui qui va convenir à votre quotidien.
Oui, alors plutôt milieu de gamme quand même. Plutôt un modèle qui est réparable, qui a des pièces détachées. Ça c'est utile, surtout quand on crapahute beaucoup avec sa poussette et qu'on risque de casser une roue ou d'abîmer son frein. Et puis surtout, le conseil, l'essayer en magasin et pas l'acheter directement sur Internet.
On termine avec vous, Jou. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Quel est votre témoignage, Jou?
C'était par rapport au coup où je suis papa depuis 5 mois. Avec mon épouse, nous avons fait le choix de passer en couche lavable. Donc justement pour éviter d'avoir à la fois des produits chimiques sur le bébé et aussi pour l'impact écologique.
C'est pas trop contraignant au quotidien, ces couches lavables?
C'est une habitude à prendre. Ouais. Après, ça prend un petit moment chaque jour. Mais par exemple, on parlait tout à l'heure des liniments pour les couches, les fesses irritées. Et nous, de temps en temps, on doit mettre des couches jetables. Et on se rend compte, dès qu'on met des couches jetables, qu'il y a plus d'irritation sur le bébé.
Du coup, je vais vous raconter les coulisses de cette émission, parce qu'Amélie Perrier vient de rentrer dans le studio. Et quand vous avez parlé de couches lavables, elle a levé les yeux au ciel, parce qu'elle semble avoir essayé.
J'ai dit non. C'est trop pour moi.
Il y a un débat.
Non, mais si vous avez le courage, bravo.
Merci pour votre courage, Jou, et merci d'avoir appelé. Juste pour terminer, Arnaud Ferzov, vous y avez un message très important pour les parents, les nouveaux parents, ceux qui vont l'être dans quelques semaines ou quelques mois.
Alors, le message, c'est quand bébé vient de naître, nous, pédiatres, on est très attentifs à ça et qu'on fait l'examen des premiers jours à la maternité, on met le bébé sur le ventre, on a le ou les parents à côté de nous et on leur dit « observez-le, regardez-le, il a des choses, il vous parle ». Et souvent, les parents disent « comment il nous parle, mais il n'a pas la parole ». Si, il vous parle, il est en train de vous envoyer des signaux. Prenez le temps d'apprendre à décrypter ces signaux, il va vous dire plein de choses, en particulier aussi sur le plan alimentaire.
Merci beaucoup, docteur Arnaud Ferzdorf. On peut vous retrouver dans votre livre Bébé premier mode d'emploi chez Hachette. Et merci beaucoup, Sophie Kouane. Le hors-série de 60 millions de consommateurs, Bébé, les meilleurs produits et les pires, c'est actuellement en kiosque. Et la pétition pour sauver 60 millions de consommateurs, là, il faut y aller. C'est sur change.org. On voit bien l'utilité de 60 millions de consommateurs ce matin. N'hésitez pas à partager cette émission aux parents autour de vous qui ont des bébés sur l'appli Radio France. Et demain, dans Grand Main Vous Fasse Weekend, à l'occasion du départ à la retraite de notre chère collaboratrice Nathalie Romero, après 40 ans de bons et loyaux services, le plaisir d'écouter son chanteur préféré, Renaud.